laissez les enfants pleurer, ne tarissez pas leurs larmes, elle lave, elle désarme ce qui les fait chavirer. Laissez les enfants verser ces ruisseaux qui les apaisent et s'en vont noyer les braises de leurs chagrins insensés. Laissez-les. Empêcher que l'on réprime cette rosée légitime. Ils ont des fleurs à arroser. Laissez les enfants pleurer avant qu'on les abîme. Laissez les enfants rêver, ne les cassez pas d'avance, donnez-leur au moins la chance d'apprendre un jour à voler. Laissez les enfants choisir des chemins qui vous dépassent, n'effacez jamais leurs traces, vous les verrez revenir. Laissez-les. Ne souffrez pas qu'on dédaigne la lumière qui les baigne. Ils ont des richesses à donner. Laissez les enfants rêver avant qu'on les éteigne. Laissez les enfants grandir, ne renforcez pas les cages, ne craignez pas les orages, ni les torrents à franchir. Laissez les enfants gagner le droit d'étendre leurs ailes dans la lumière nouvelle d'une vie à inventer. Laissez-les. Ils vont s'envoler ensemble, un même ciel les rassemble. Ils ont des sommets à gravir. Laissez les enfants grandir avant qu'ils nous ressemblent. Laissez-les.
Des cailloux dans l'engrenage, l'enfance poil à gratter. Nous sommes mercredi 21 mai 2025. C'est la 120e émission des cailloux dans l'engrenage. Je n'en reviens pas. Et 160e, oui. Et c'est un grand jour parce que aujourd'hui nous avons un invité de marque, un éditeur jeunesse qui s'appelle Thierry Magnier. Bonjour Thierry Magnier. Bonjour. Et j'ai un enfant à côté de moi et nous allons avoir un disque qui va accompagner toute notre émission avec les œuvres de Thierry Magnier, qui est un éditeur jeunesse, depuis les plus petits jusqu'aux jeunes adultes. Et le disque du jour qui nous accompagne, c'est le label Irfan, qui est le label des Ogres de Barbac, qui a produit un livre-disque qui s'appelle « Mon petit loup, la compile », qui est sorti en octobre 2024. Et c'est toujours du travail très soigné, comme tout ce que fait le label Irfan, avec les Ogres de Barbac et plein d'invités. Et donc, nous aurons pas le temps d'écouter tout, mais nous écouterons certains morceaux. Alors, il y a pas seulement les Ogres de Barbac, il y a Magie de Cherfi, il y a Old Elaf, il y a les gens de Fredo des Ogres de Barbac, Alain Simone, Anne O'Haro, Flavia Coelho, La Requête à nous, etc. etc. Nous n'aurons pas le temps de tout mettre, mais vous pourrez avoir cet aperçu de ce disque-livre qui est conçu pour lutter, pour contribuer à lutter contre les violences sexuelles faites aux enfants. Je trouvais que ce livre, ce disque-livre, avait un bon lien avec le travail de notre invité. Alors Thierry Magnier, depuis combien de temps êtes-vous éditeur ?
Si je dis depuis combien de temps, je parais un vieillard.
frappait plus fort.
La maison Édition Thierry Magnier est une maison qui va sur ses 30 ans bientôt, qui n'a pas changé de braquet depuis sa naissance, et on continue à essayer d'ouvrir un petit peu les œillères aux enfants et aux jeunes adultes, et on aborde des sujets parfois un peu difficiles, certes, mais on n'est pas dans un monde de bisounours, ça c'est une évidence, mais on essaie de parler de vrais sujets, tout en restant dans la poésie, dans l'artistique, et voilà.
Alors, j'ai amené, moi, 3 livres qui ont été choisis par un enfant, et vous en avez amené d'autres. Vous n'entendez pas assez le retour, alors. Est-ce que là, vous entendez...
Je crois que j'entends pas votre micro, mais...
Vous n'entendez pas mon micro, alors ça...
C'est embêtant.
Oui, bah pourtant... bon, je sais pas. Bon, bah, je mets ça plus fort. Vous m'entendez mieux, là? Non, vous m'entendez pas du tout. Et là, est-ce que vous m'entendez...
Non, je vous entends de là, mais je vous entends pas dans le...
Bon, alors, écoutez...
J'espère que les auditeurs vous entendent.
Ah ben oui, ça, je le vois sur...
alors, c'est parfait. Bon.
Alors, nous avons apporté un livre d'une petite collection pour les bébés, parce qu'ils sont des petits livres carrés, très cartonnés. Et vous avez une image, un logo, c'est une petite fille qui tient un livre. Elle a deux couettes ou c'est un ange avec deux ailes?
C'est vrai que souvent on nous dit que c'est une petite fille qui lit, mais pas du tout, c'est un ange. C'est un ange qui lit. Alors pourquoi cet ange? Alors au départ, ce logo a été dessiné par Georg Ansleben, qui avait fait avec moi un album. Mon premier album que j'ai écrit chez Gallimard. À l'époque, je travaillais chez Gallimard. Et on avait fait un bouquin, enfin, j'avais écrit un bouquin qui s'appelle Solange et l'ange, qui existe toujours. Et il avait fait des très beaux dessins avec un ange et un cochon, puisque c'est une cochonne, la petite Solange. Et quand j'ai quitté Gallimard et que j'ai monté ma maison d'édition, j'ai dit pourquoi tu me ferais pas un logo avec un ange? Alors c'est pas du tout, je crois en quoi que ce soit, mais je trouvais que l'idée de l'ange était intéressante dans la mesure où un ange n'a ni sexe ni âge, et que la lecture elle est pour tous, et donc un petit ange qui lit, c'est toujours... puis bon, ça fait pas de mal de croire qu'un ange gardien, ça fait pas de mal pour la maison d'édition.
Voilà, alors là, celui-là, c'est Un peu perdu de Chris Houghton. Oui, je ne sais pas trop comment on prononce. Et c'est catastrophe, bébé chouette est tombé du nid, et ça vaut 9 euros. Et d'expérience, les bébés chouettes ont un grand succès auprès des bébés dans les crèches. Lui, quand il était petit, et quand je raconte des histoires en crèche, les tout-petits adorent les bébés chouettes. Je ne sais pas pourquoi.
Oui, c'est vrai que c'est un petit personnage assez curieux, la chouette, quand même.
Alors, on a aussi un autre livre qui est un peu plus ancien. Donc là, c'est une collection. Vous avez une collection pour les tout-petits.
Voilà, Chris Houghton, ça fait à peu près... 8 ans que je travaille avec lui, et donc ça doit être le 7e, 8e maintenant album que nous faisons avec lui. On le fait d'abord en grand format, puis ensuite on le fait en petit cartonné. Ce sont des histoires excessivement simples, très 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 simples, mais qui traitent un petit sujet. Là, c'est effectivement la peur de c'est un peu perdu, hein, vous m'avez dit.
Oui.
Là. Un peu perdu, c'est l'histoire effectivement d'une petite chouette qui a perdu sa maman, parce qu'elle s'est endormie et qu'elle est tombée par terre, et elle cherche sa maman, et elle va interroger plusieurs animaux pour savoir où est sa maman, et bah, évidemment la retrouver. Mais il y a toujours une chute qui est assez amusante.
Alors la chute au sens propre, parce que le bébé chouette,
oui,
tombe du nid, et là il y a du oh-oh, bong-bong, enfin c'est difficile à l'expliquer à la radio, mais tu veux la lire? Ben, alors voici.
Donc c'est Un peu perdu de Chris
Houghton.
Houghton. Donc voilà. Alors
ça y est, là on l'a déjà dit.
Donc oh, bing bing bing.
Elle est en train de tomber.
Est-ce que ça va ? Demande Écureuil. Je suis perdu, dit Bébé Chouette. Où est ma maman ? Ne t'inquiète pas, bonhomme, on va la retrouver. Elle est comment, ta maman ? Ma maman, elle est très, très grande. Grande comme ça, dit Bébé Chouette. Ok, ok, je vois, s'exclame Écureuil. Suis-moi. La voilà, elle est là, ta maman. Non, non, dit Bébé Chouette, ce n'est pas ma maman. Ma maman, elle a des oreilles pointues, pointues comme ça. Ok, ok, je vois, s'exclame Écureuil. Suis-moi. La voilà, elle est là, ta maman. Non, non, dit Bébé Chouette, ce n'est pas ma maman. Ma maman, elle a des yeux immenses, des yeux comme ça. Ok, ok, je vois, s'exclame Écureuil. Suis-moi. La voilà, elle est là, ta maman. Non, dit Bébé Chouette, ce n'est toujours pas ma maman. Attendez une seconde, dit Grenouille, je connais ta maman. Suis-moi, elle te cherche partout. Est-ce que c'est elle, ta maman ? Oui, oui, la voilà, elle est là, ma maman. Oh, merci beaucoup, dit Maman Chouette. Vous voulez monter dans notre nid manger quelques biscuits ? Volontiers, Écureuil. Volontiers, répond Écureuil. Nous raffolons des biscuits. Et là, on voit la petite chouette tomber. Encore du nid. Oh, oh.
Elle est en train de se rendormir une autre fois.
Aussi juste, là on ne vous a pas précisé parce que ce n'est pas écrit dans le texte, c'est quels animaux qu'elle rencontre.
Oui, mais bon, vous pourrez... Il est encore disponible ?
Bien sûr, oui. Oui, c'est vrai que c'est assez difficile de lire à la radio parce que les images apportent aussi... Il y a deux lectures en fait.
Elles sont complémentaires.
Elles sont complémentaires, donc... mais bon, c'est une belle surprise.
Alors, c'était paru en 2010... Et il y a à la fin une petite phrase qui est issue de Robinson Crusoe et de Daniel Defoe, une traduction de 1833, s'il vous plaît. Voilà ce qu'elle dit. « Ainsi, nous ne voyons jamais le véritable état de notre position avant qu'il n'ait été rendu évident par des fortunes contraires et nous n'apprécions nos jouissances qu'après que nous les avons perdues. » Voilà ce que disait Daniel Defoe.
Oui, parce qu'à chaque fois, dans tous ses livres, Chris Houghton ajoute une petite phrase comme ça, un petit clin d'œil aux adultes, avec un proverbe ou voilà, une citation qui permet d'expliquer que d'une façon très simple, avec effectivement ces animaux et ces rencontres, eh bien, il y a quelque chose de solide derrière, il y a toujours une réflexion.
Et alors c'est d'autant plus intéressant que c'est à un âge où les enfants ne savent pas lire, ils sont tout petits, ils restent des heures sur les genoux, racontent, encore, et c'est une passerelle entre les parents et les enfants, ce type
alors
de
ça,
livre.
Alors ça, pour moi, c'est très très important, c'est-à-dire que quand on fait des livres pour les tout petits, c'est très important d'intéresser aussi l'adulte. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible qu'un adulte qui s'ennuie quand il va lire une histoire à un enfant. Ça, c'est terrible. Je veux dire, l'enfant se rend compte très, très vite et immédiatement que l'adulte s'ennuie. Et par conséquent, il n'a plus très envie de lire. Or, la communion, j'allais dire, entre le lecteur et l'enfant, elle est hyper importante. Donc, si l'adulte, lecteur, que ce soit père, mère ou ami,
à la crèche
ou peu importe, il est important qu'ils prennent aussi un plaisir et qu'il y ait un échange comme ça qui se fasse. Donc, pour moi, c'est des moments privilégiés de la lecture pour le tout petit avec l'adulte. C'est-à-dire qu'il y a un moment comme ça où on l'a dans les bras, sur les genoux, et quelquefois ils sont plusieurs quand on est dans une classe, et ils sont tous là près de nous, avec ces petites odeurs de caramel et autres, et sont avides d'écouter l'histoire. Et quand ils voient effectivement l'adulte sourire et prendre plaisir, c'est réussi. Et il y a autre chose aussi qui est important, c'est que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que l'enfant dit toujours « encore, lis-moi encore l'histoire », et quelquefois on est au bout de la 20e. Donc il faut penser aux parents, aux adultes, ils n'ont pas que ça à faire. C'est vrai qu'on rend du boulot, lire une histoire une fois, deux fois, trois fois. Donc il faut qu'elle plaise d'une part, et d'autre part qu'elle soit assez courte pour pouvoir la répéter. Parce que quand on se trouve devant un livre comme ça, effectivement, quand on entend encore, on se dit « allez hop, on lui refait une deuxième, une troisième, une quatrième ». Donc il faut bien imaginer que quand on fait un livre pour les tout petits, il faut vraiment penser à tout ça. C'est-à-dire, c'est pas seulement l'enfant, bien sûr, il est important, mais aussi l'adulte. Et puis, le travail qu'on fait effectivement avec l'auteur ou l'illustrateur.
Et je raconte des histoires en crèche, et c'est valable aussi avec Bien les sûr. Petits groupes de crèche dès l'âge de un an et demi.
Mais des bébés, on peut dire des histoires aux bébés, oui. Dès tout petit, on peut leur en parler.
Et alors, vous êtes le rôle des éditeurs jeunesse est pour moi très très important dans l'éducation, dans le partage. C'est ce que vous venez de
oui,
dire.
Oui, c'est-à-dire que d'une façon égoïste, j'allais dire, ça me plaît bien de donner aux enfants des livres, j'allais dire des livres intelligents. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Et bon, c'est peut-être un peu prétentieux de dire que nous, on fait des livres intelligents, mais on le pense vraiment.
Vous n'êtes pas les seuls, heureusement, parce que je trouve que l'édition jeunesse a explosé de façon extraordinaire.
C'est très, très riche. L'édition jeunesse en France, elle est très, très riche. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse partie un peu grand public et grosse machine qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Et donc c'est vrai que c'est important alors d'une façon égoïste, me dire que si on donne aux enfants des petits une ouverture, un plaisir de lire, le plaisir de regarder une image, parce qu'on travaille avec beaucoup d'artistes, souvent ce sont des artistes contemporains. Eh bien, c'est vrai qu'on leur donne quelque chose. Je me dis, si on fabrique bien leur tête, c'est eux bientôt qui feront les lois et que je serai un vieillard et que par conséquent, je veux qu'ils se fassent des bonnes lois.
Eh bien, nous sommes parfaitement d'accord. Alors voilà un autre livre, avant qu'on passe à ceux que vous avez amenés. C'est lui qui l'a choisi et il s'appelle Sequoia. Il est en plusieurs alphabets. Il est par F. Marais, mais je ne sais pas qui est le F... mais c'est pas grave, c'est paru en 2011 et je vous lis la quatrième de couverture. Sequoia, 1770-1843, l'histoire authentique du grand chasseur Cherokee qui inventa un alphabet pour son peuple. Cherokee, c'est un indien d'Amérique du Nord. Je vais lire ça, puis toi tu liras l'histoire, d'accord? Ça, c'est l'avant-propos. Sequoia est l'inventeur de l'alphabet et du système d'écriture Cherokee. Cette invention est une des créations intellectuelles les plus impressionnantes jamais réalisées par un seul homme. Son nom a été donné à de nombreuses écoles, des hôpitaux, à une région d'Oklahoma et à un arbre géant, le Sequoia. Une statue de Sequoia, l'homme Sequoia, est érigée à la librairie du Congrès de Washington. À ce jour, le Cherokee reste la seule langue indienne utilisant son propre alphabet. Quand j'ai trouvé ce livre, quand je l'ai acheté au Salon du Livre à l'époque, ça a été une grande découverte pour moi. Alors voici, il va le lire.
Il y a très longtemps, au milieu des montagnes sauvages, vivaient un petit garçon et sa mère. Ils appartenaient à une tribu Cherokee. Ce petit garçon n'était pas tout à fait comme les autres enfants Cherokee. Un pied mal formé le rendait boiteux. Les enfants de la tribu se moquaient de son handicap et l'appelaient Sequoia, qui signifie en Cherokee « pied de porc ». Sequoia avait honte. Il restait toujours seul, grandissait à l'écart des autres. Devenu adulte, ses connaissances des montagnes et des animaux lui permirent de devenir un très grand chasseur. Désormais, dans la tribu Cherokee, plus personne ne se moquait de lui. Son courage avait définitivement fait oublier son handicap. Il devint très respecté. Ses exploits de chasse étaient célébrés par toute la tribu et son commerce de peau inconnu bien au-delà des montagnes.
Son commerce de peau connu bien au-delà des montagnes, pardon.
Un jour, un homme venu de très loin pour acheter des peaux d'animaux lui demanda de signer un contrat. Sequoia, ne sachant ni lire ni écrire, se sentit à nouveau handicapé. Il décida alors de partir pour apprendre. La première ville qu'il traversa était abandonnée, mais une grande bâtisse à l'écart des autres maisons l'intrigua. À l'intérieur, il découvrit toutes sortes de signes, servant à imprimer le papier. Ce trésor l'émerveilla et le mit dans un sac. Il repartit aussi vite qu'il put vers sa tribu. Il sentait qu'avec ses petits objets en plomb, il pourrait peut-être faire de grandes choses. Pendant 12 ans, il manipula ces signes, il les retourna, les renversa, les associa, les combina, dessina, les peignit, les grava. Il chercha ainsi pendant 12 ans à retranscrire les 85 articulations de sa langue, Cherokee. Et puis un jour, pensant avoir terminé son alphabet, il le représenta avec beaucoup d'émotion à tous les grands chefs réunis de la nation Cherokee. Impressionnés par l'invention de Sequoia, les grands chefs adoptèrent officiellement son alphabet et toute la nation Cherokee apprit à lire et à écrire sa propre langue. Depuis ce jour, le nom de Sequoia signifie héros en Cherokee. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai oublié de lire une page.
Ah, bon, c'est pas grave. Et à la fin, il y a l'alphabet, le syllabaire Cherokee et les signes représentant les 85 articulations Cherokee. Alors, ce livre, moi, je pense que c'est un. Il devrait être étudié à l'école, tellement il est important, parce que quand j'ai découvert ce livre. Au début, c'est vrai que la première fois qu'on achète un livre pour un enfant, parce que je ne vous connaissais pas encore, c'était une époque où je l'avais acheté pour moi. Et c'est après que je l'ai, j'ai dû le lire déjà à mes débuts à la radio. Il est très beau au niveau des images. Et puis, l'histoire interpelle le quatrième de couverture. Et je vais vous laisser en parler un petit peu, puis ensuite, là, je vois que j'oublie de passer la musique. Je vous laisse en parler un petit peu de ce livre qui, pour moi, a une très grande importance.
Bah, écoutez, ça me fait toujours plaisir d'entendre qu'un livre, un livre pour enfants est important, et celui-là, effectivement, en fait partie. Ça montre effectivement que le pouvoir d'écrire, le pouvoir de lire est très important aujourd'hui, encore plus que jamais, pour pouvoir... dire ses choix, de parler, etc., et de négocier, parce que là, au départ, ça part d'un contrat, et donc, voilà, ça montre l'importance de l'écrit, d'une façon générale.
Nous allons, Thierry Magnier, nous sommes sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître, ni publicité, ni nationalisme, de la Fédération anarchiste. Et maintenant, nous allons écouter du label IRFAN, le CD contre les violences sexuelles faites aux enfants. Le premier titre, c'est Minibus. Le monde est à moi.
Mon corps est à moi. gloire, au corps et à moi. Car il vous, au bout de mes pieds, j'ai le droit de m'évader. Acquis en vous, au quasi la gloire, au corps et à moi. Car il vous, bouteille d'eau, de courbée, bébé noir, noir de nuit, nuit d'étoile, Dounia Lola Chou. Car il vous, bout d'étoile, toile de mer, mer tortue, tu es chaud, chocolat, le monde est à toi, le monde est à moi, Dounia Lola Chou. Akiza Kuzo, Kasi Dagua, mon corps est à moi. Akiza Kuzo, Kasi Dagua, mon corps est à moi. Akiza Kuzo, Kasi Dagua, Dounia Lola Chou. Akiza Kuzo, Kasi Dagua, Dounia Lola Chou.
Radio Libertaire des Cailloux dans l'engrenage, l'enfance poil à gratter. L'émission du troisième mercredi, cette fois de mai 2025, et avec un invité de marque au niveau de l'édition jeunesse, très important dans l'édition jeunesse, Thierry Magnier. Et merci, nous avons mis un certain temps à réussir à trouver
un moment pour se rencontrer.
Et justement, nous en avons parlé ensemble avec ce livre que j'ai dans les mains, Des siècles et des siècles. Et vous me l'avez donné au Salon du Livre dernier, il y a à peu près 6 mois. Et il y a collé sur la couverture Pépite 2024 Sélection. Des siècles et des siècles, Christophe Honoré, illustration Gwen Le Gac. Et ça vaut 19 euros. Regarde à quoi tu ressembles et regarde-moi, grand frère, petite sœur. Tu vois le truc ? Je suis vieux, comme t'as pas idée. Et je vais le lire et après, on en parlera. Parce que ce livre, je dois vous avouer que quand vous me l'avez donné, puisqu'il avait été pépité, on va inventer un mot, il a été pépité, je sais pas si ça se dit.
On peut le dire.
Il est somptueux et j'ai regardé d'abord plein de fois les images, j'ai tourné les pages et j'ai même pas regardé les textes. Et au bout d'un certain temps, je me suis dit, mais mince, il y a un texte, c'est une histoire et c'est tellement beau que c'est comme si j'étais dans une galerie où il y a des tableaux de peinture et que je les regardais. Et toi aussi ?
Oui.
Et ce sont des peintures de Gwen Le Gac, qui sont des peintures sur... vitre. Voilà.
Alors, voilà l'histoire. Alors, vous entendez, là, les auditeurs et auditrices, auditeuristes, on peut dire maintenant, vous entendez le papier qui tourne, et moi, ça ne me dérange pas. Au contraire, on montre que c'est un objet, et nous en parlerons après avec Thierry Magnier, l'importance de l'objet livre, et pour les enfants tout particulièrement. Je commence. Je t'explique. Il y a une énorme différence entre nous. J'ai 3 ans de plus que toi et ça change tout. Tu seras à peine arrivé à l'école que moi je serai déjà quelqu'un de bien. J'aurai un tatouage, une histoire d'amour, je me téléporterai de Paris à Marseille et j'irai sauver les océans Atlantique et Pacifique. 3 ans, t'imagines pas, c'est un fossé, un gouffre. Je suis d'une autre génération que toi. On est à des années-lumière. Tu peux pas nous comparer. Regarde à quoi tu ressembles et regarde-moi, grand frère, petite sœur. Tu vois le truc ? Je suis vieux comme t'as pas idée. Je vais te dire, je suis plus près des années 2000 que toi. Les années où le Groenland a commencé à superfondre et où papa et maman étaient des enfants sans Internet, des enfants sans portable, eh bien moi je suis plus près des enfants qu'ils étaient que de toi. J'étais même déjà là quand la mère de notre mère empêchait les Américains de faire la guerre contre le Vietnam, je la revois encore avec les fleurs dans ses cheveux et ses lunettes rondes et sa voix qui chantait qu'il fallait prendre la vie comme elle était et laisser la terre tourner tranquillement Dommage que tu l'aies pas connue alors. Elle avait de qui tenir, mamie. Pendant la guerre mondiale, sa mère avait été résistante contre les nazis. T'as entendu parler des nazis? Des camps de la mort? Ils ont tué des milliers de gens en Europe parce qu'ils étaient juifs. C'était comme la fin du monde. J'ai vécu ça, je suis de l'ancien temps. D'un monde oublié, j'ai assisté à l'abdication du dernier empereur de Chine. C'était un enfant de 6 ans, tu sais, il s'appelait Puyi Chictip. Et j'ai suivi le cortège funèbre de Victor Hugo dans les rues de Paris. Hugo, tu vois, Quasimodo, Esmeralda, Gavroche. J'étais Gavroche, moi. Debout sur les barricades, à faire la révolution et à couper la tête à Louis XVI. Attention, j'ai pas actionné la guillotine. Mais le père du grand-père de notre grand-père, oui. Quick le roi, il faut dire qu'on en avait connu pas mal, qui n'étaient que des bons à rien. Crois-moi, c'était pas tous des soleils à la Louis XIV. Note que moi, je me sentais pas vraiment à l'aise à Versailles. J'ai préféré partir en Amérique à l'époque, tout à l'ouest, vers les montagnes rocheuses. Et on était les premiers à débarquer là-bas. C'était une vie pleine de dangers, mais j'étais bien entraînée. Un vrai guerrier, j'avais suivi l'éducation des samouraïs. Je t'en ai parlé souvent, les celtes valeurs du Bushido. C'est ma base. Compassion. Respect, courage, honneur, honnêteté, devoir et intégrité. J'ai jamais failli à mon code d'honneur. Et au tribunal d'Osiris, on m'a promis la vie éternelle. Un jour, on ira au bord du Nil, je te montrerai la pyramide qui m'attend. J'étais presque un dieu pour eux et encore... Ils ne savaient pas que la mère de toutes mes grand-mères, de mes grand-mères, c'était la première femme du monde, la bonne Lucie, qui, avant de chuter d'un arbre, a coursé plus d'un tyrannosaure. Elle m'avait appris à les dessiner sur les murs des cavernes où on habitait. C'était un chouette coin. On l'avait déniché juste après la big explosion qui avait formé l'univers et accouché de notre petite planète bleue. Mais bon, je ne vais pas te refaire l'histoire de la Terre. Comme tu vois, je suis juste là depuis tellement plus longtemps que toi. Alors, tu vas être gentille maintenant. Et ce vélo sans petite roue, tu vas me le laisser. C'est un vélo pour grand, ma petite, t'as pas l'âge pour. On est d'accord? Non.
La chute est terrible. Et c'est ça qui fait le... C'est intéressant ce genre de livre parce que le grand frère qui veut absolument être plus fort que la petite sœur ou le petit frère pour montrer que lui, il a tout connu, il a tout vu, etc. Et il repasse toute la création du monde et qu'il a tout connu. Et puis au dernier moment, il en profite, puisqu'il a montré qu'il était quand même le plus fort, de dire que bon, bah, le vélo, c'est pour lui, quoi. Et la petite fille dit non. Et ça, j'aime assez cette chute très, très légère. C'est la seule chose que dit la petite fille, mais c'est un vrai non.
Tout à fait. Alors maintenant, nous allons parler d'un livre plus récent que moi, je ne connais pas encore. Vous allez nous le présenter, puis on va se le passer du studio à la régie.
Alors, un qui est tout frais, là, qui sent encore l'encre, qui vient de sortir, qui s'appelle « L'heure des lapins », d'Anne Cortet et de Yulang Yu, qui est un livre sur la perte d'un doudou. Alors ça, c'est toujours important, mais vous allez voir comment... Enfin, là il faudrait vraiment une caméra pour voir toutes ces images, parce que c'est vraiment un travail d'artiste. Et vous allez voir que toute la famille, enfin le grand-père et la grand-mère, les frères et sœurs, vont essayer de retrouver ce doudou. Je vous le passe donc.
Thierry Magnier, éditeur jeunesse, depuis les tout petits jusqu'aux jeunes adultes. Donc, Anne Cortet, Hualingzhou, c'est chinois, japonais, ouais. C'est chinois. Catastrophe, Doremus a perdu son doudou. alors que le jour décline, son grand-père décide d'embarquer toute la joyeuse tribu dans une expédition qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Et ça vaut à peu près 18 euros. Et tu veux le lire ? Il est en train de respirer l'odeur de l'encre. Allez, vas-y.
C'est toujours une chose qu'on fait quand on reçoit nos livres, oui. C'est de les toucher. D'où l'importance de l'objet.
De l'objet, oui.
C'est vrai qu'on a tendance à oublier que, aussi, c'est une éducation de montrer à un enfant qu'un livre est un bel objet. Il est pas pour ça quelque chose qu'il faut mettre sur un piédestal, mais c'est quand même une chose importante de leur montrer que, par rapport à l'écran, par exemple, on est dans un objet sensuel, on le touche, on le sent, on tourne les pages, on peut s'arrêter quand on veut, on revient, on tourne la page, on regarde encore une image. Donc ça, c'est important de soigner absolument tous les livres qu'on fait, et particulièrement pour les enfants, j'ai l'impression.
C'est pour ça que moi, un réflexe que j'ai dès que quelqu'un m'offre un livre ou dès que j'ai un livre, c'est que j'ouvre la première page et je le sens. Je ne sais pas pourquoi, j'aime bien sentir le neuf.
Oui, c'est l'encre qui sent ça, le papier.
Et alors, par rapport à l'objet et au papier, moi j'aimerais rajouter quelque chose. On n'arrête pas de dire oui, mais le papier, on tue des forêts, nanana. Mais quand on a édité, quand sort et paru un livre avec l'objet, il fait des dizaines et des dizaines de lectures, quelquefois des dizaines d'enfants, parce qu'il va de frère en sœur, en cousin, en copain. Il est partagé et c'est pas un seul clic. C'est le nombre de clics qui reviennent. On utilise, on gaspille énormément par le numérique, alors qu'avec le papier, on le fait une fois et puis c'est fini. Je ne sais pas si je m'explique bien.
Oui, mais il faut savoir une chose, parce que c'est vrai qu'on a été à un moment critiqué, les éditeurs, par rapport à l'écologie, parce qu'on utilise beaucoup de papier. Alors d'abord, on utilise un papier souvent dont les arbres sont plantés pour justement tirer du papier, qu'on utilise des encres qui ne sont pas polluantes, enfin on fait très très attention, hein, c'est pour ça que je fais très très rarement des livres en Chine, qui ne sont pas forcément, au niveau écologique, qui ne sont pas forcément bien, mais il faut savoir que la production de papier dans le monde, d'abord c'est tenu par des lobbies absolument épouvantables et qui font la pluie et le beau temps, mais en plus c'est que le papier utilisé pour faire des livres, ça ne représente que 5% de la production. Il faut savoir que les 95 autres pourcents du papier sont utilisés pour des tracts de publicité, les journaux, les magazines, etc. Donc nous, éditeurs, tous autant qu'on est, que ce soit jeunesse ou adulte, on n'utilise que 5%. Donc c'est quand même pas énorme par rapport à... Et ça laisse, comme vous dites, ça reste. C'est les livres restent, ils sont là, ils nous accompagnent, ils nous entourent. Et c'est très important. S'il n'y avait plus de livres, ça serait une tristesse absolument incroyable. D'ailleurs, on voit bien qu'un livre est important, puisqu'on en parlera tout à l'heure. Certains livres posent des problèmes pour certaines personnes. Donc la force du livre est encore importante. Et elle laisse vraiment une trace. Et toutes les civilisations ont commencé par l'écriture d'un livre. Donc le livre reste important et je pense qu'on... Moi, je suis très optimiste par rapport aux livres et je combats ça. Je crois que je sais et j'aime faire les livres et que le reste, si ça existe, bah, je serai à côté, mais c'est pas grave.
Et puis, c'est beaucoup plus facile de transmettre l'objet livre que de transmettre
quelque chose de virtuel.
Et là, c'est transmis de grand-père en père en fils,
puis,
de grand-mère
on se
en
l'approprie,
mère en fille.
Le livre. Alors, quand c'est la lecture publique, c'est plus difficile. Mais quand c'est un livre qui nous appartient, on se l'approprie. C'est-à-dire que ça devient un objet, presque un objet transitionnel. On peut même écrire dessus si on veut. On peut le... Voilà, c'est quelque chose qui vit. Alors que le virtuel, évidemment, ça passe.
Et ça pollue les océans, on fait des
bien plus,
bien,
bien
plus,
plus.
Bon, alors je suis très contente qu'on ait pu échanger là-dessus. On va passer un deuxième titre avant de le lire, si vous êtes d'accord. Non, là.
3, 2, 1, c'est parti.
Je souffert, cette tour raide sous ma nuque, ce combat, quel enfer. Je crois que la boxe c'est pas mon truc. J'ai vu quelques étoiles sous la valanche du percute. Rien à faire, mais la boxe c'est pas mon truc. Bon ok, mon adversaire était bien plus grand que moi. Au moins 30 kilos de plus, je ne faisais pas le poids. Je suis même assez surpris qu'il nous ait mis tous les deux dans la même catégorie. Ça pourrait être dangereux, un combat entre un môme de 10 ans et un type qui s'énerve de temps en temps. J'ai souffert, cette tour raide sous ma nuque, ce combat, quel enfer. Je crois que la boxe c'est pas mon truc. J'ai vu quelques étoiles sous la valanche du percute. Rien à faire, mais la boxe c'est pas mon truc. Et pourtant le type en face, je le connaissais déjà. De temps en temps c'est cocasse, je l'appelle même papa. Là je me suis laissé surprendre, il peut s'emporter comme ça. Alors qu'il sait être tendre, même un peu trop quelquefois. Il doit être perdu dans ses sentiments, ou bien il est hors la loi tout simplement. J'ai souffert, cette tour raide sous ma nuque, ce combat, quel enfer. Je crois que la boxe c'est pas mon truc. J'ai vu quelques étoiles sous la valanche du percute. Rien à faire, mais la boxe c'est pas mon truc. C'est moi qui serai grand, je fasse jamais de la boxe comme je avec mes enfants. Aïe, j'ai souffert, cette tour raide sous ma nuque, ce combat, quel enfer. Je crois que la boxe c'est pas mon truc. J'ai vu quelques étoiles sous la valanche du percute. Rien à faire, mais la boxe c'est pas mon truc. La 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 la. Sous la valanche du percute, rien à faire, mais la boxe c'est pas mon truc.
Alors c'était Olde la fin. Est-ce que vous connaissiez cette chanson?
Celle-là, je ne la connaissais pas, mais j'aime beaucoup cette démarche qui parle du consentement, qui parle de la violence faite aux enfants, et je crois qu'on n'en parle pas encore assez, et pourtant c'est dans l'actualité, et il ne se passe rien. C'est ça qui est très triste. Et par la chanson et par le livre, je pense qu'on peut encore parler de ça, et c'est une façon d'aborder des sujets un peu difficiles quand même, parce que c'est les enfants qui vivent ce genre de choses sont vraiment dans quelquefois très, très isolés. Et plus on en parlera, mieux ça vaudra.
C'est donc dans la compile Mon petit loup du label Irfan qui est sortie en octobre 2024. Alors nous allons lire maintenant L'heure des lapins.
Un volcan a explosé dans la maison. Doremus ne retrouve plus son doudou. C'est grave, dit Louis, son grand frère. Très très grave, souligne Marthe, l'aîné des trois enfants. Papy Tony pose des questions. Mamie Hula cherche le doudou dans la maison, mais rien n'y fait. Il reste introuvable. Heureusement, le volcan se calme. Doremus entrouvre la bouche. Je crois que je l'ai abandonné sur le chemin des grands pins. Quoi, là-haut ? Demande surpris Papy Tony. Mais quand Marthe et Louis racontent alors qu'ils se sont promenés pendant que leur grand-père ratissait le jardin. « Ah bon ? » dit-il, « je ne vous ai même pas vu partir. » Papy Tony jette un coup d'œil par la fenêtre. Le soleil va bientôt se coucher. Puis il se tourne vers les enfants. Mettez vos vestes, on part à la recherche du doudou. Doremus renifle. Mais, on va le retrouver ? Demande-t-il, la voix pleine de sanglots. Sniff. Il fait encore jour. Il n'y a pas de raison qu'il nous échappe, le rassure son grand-père. La petite troupe prend la direction du plateau. Louis regarde à gauche, Marthe à droite. Doremus tourne la tête de tous les côtés. Papy Tonique, très grand, voit tout ce que les enfants ne voient pas. À l'embranchement des deux cèdres, le grand-père tourne à droite. Les enfants l'arrêtent tout de suite et lui montrent l'autre chemin. Celui qui grimpe directement vers les grands pins. « Eh bien, mes petits lapins, je vois que vous connaissez bien le coin, » dit-il en riant. Pendant qu'ils poursuivent leur marche, les cailloux s'entrechoquent et crient sous leurs souliers. « Ça suffit, les pierres, » dit Marthe. « On ne s'entend plus marcher. Tu as besoin de silence pour chercher le doudou de ton frère ?» demande Tony. « Oui, je n'arrive pas à me concentrer. » Alors, dans le silence le plus absolu, ils avancent un peu feutrés. Tony s'arrête un instant, puis il fait un signe de le suivre derrière un buisson. « Qu'est-ce qui se passe ? Chut, regardez par là !» dit-il en pointant le doigt. Un tintamarre de cailloux les fait sursauter. Des petits, des mamans, des papas aux longues oreilles bondissent devant eux. Les lapins font la course du temps perdu, loin du terrier. Les enfants émerveillés en ont le souffle coupé. Soudain, Doremus se lève chancelant. Il a une extraordinaire vision. Le garçon se frotte les yeux au cas où ce serait faux. Mais non, c'est bien réel. Son doudou est en train de galoper sur le dos d'un lapin. La folle équipe s'approche, le cœur de Doremus cavale. Puis le doudou saute de sa monture et accourt vers son petit maître. Doremus le serre alors fort contre lui en pleurant de joie. Pendant que le sauveur du doudou repart vers les siens, Papy Tonique caresse la tête de son petit-fils. « Voilà une affaire rondement menée, » dit-il. « Rentrons maintenant. On peut rester encore un peu, s'il te plaît, » supplie Marthe. « Oh oui, papy, le spectacle des lapins n'est pas terminé, » poursuit Louis. « Moi aussi je veux, » s'exclame Doremus. Papy, Tony, soupire. La majorité a toujours raison. Il s'assoit alors en demi-cercle dans l'herbe sèche. Peu à peu, le ciel bleu s'efface pour laisser la place au noir de la nuit. Les lapins jouent aux ombres chinoises devant la lune qui sort de sa cachette. C'est-à-dire de sa cacahuète.
Oui, c'est pas grave. Là, c'est une page sans texte où les lapins font la ronde.
Maintenant, les yeux des enfants ne distinguent plus rien. Il faut qu'on rentre cette fois-ci, dit Papy Tony. Sinon, votre grand-mère va se faire du mauvais sang. Et il sort sa lampe de poche. Sur le sentier du retour, un ray de lumière balaye la campagne. J'ai vu un lapin, s'écrie Marthe. Moi aussi, dit Louis. Moi, j'ai vu celui qui m'a ramené mon doudou, balbutie Doremus. Bientôt, la maison illuminée apparaît. Ça sent le gratin dauphinois, ça sent la saucisse, ça sent la tarte aux pommes. Je crois que là, vous a gâté, s'amuse Papy Tony. Doremus se met à courir vers sa grand-mère, qui les attend dans le jardin, en dressant son doudou devant lui comme un trophée. Je l'ai retrouvé ! À l'intérieur, la table pleine de victuailles les attend. Bientôt, les bouches des enfants raconteront les fantastiques retrouvailles. Grand-mère Ulla les écoutera, les yeux écarquillés, se demandant si tout cela est bien réel. Mais voilà.
Voilà, ce livre, donc, vous pouvez me dire comment il a...
Ben, il est arrivé d'abord un texte, ensuite on a cherché une illustratrice, et puis, là aussi, quand on regarde les images, c'est intéressant aussi dans un album, c'est d'avoir deux lectures. C'est-à-dire que si on lit le texte, c'est intéressant comme exercice, parce que quand on ne voit pas les images, il faut que le texte tienne seul, même sans les images. Et là, il tient.
Oui.
Et de la même façon, si on retire le texte, Et comme on parlait tout à l'heure des siècles et des siècles de Christophe Honoré, de la même façon, les images tiennent déjà une histoire. Vous-même, vous disiez que quand vous aviez rencontré des siècles et des siècles, vous avez regardé les images et ça racontait une histoire. Donc ce qui est intéressant, c'est quand on travaille sur un album comme ça pour les enfants, c'est d'avoir un texte qui tienne, qui soit bien écrit et qu'on ne mette pas aussi, alors ça c'est hyper important, de ne pas mettre n'importe quel... de changer les mots parce qu'ils nous paraissent difficiles. Donc au contraire, il faut garder les vrais mots. C'est ça la littérature. Et dès petit, il faut leur apprendre ce que c'est qu'un vrai texte. C'est pas la peine de faire des choses un peu bêtifiantes parce que ce sont des enfants. Et donc quand le texte tient tout seul, ensuite vient se mettre l'image. Et l'image peut d'ailleurs, de temps en temps, effacer des choses du texte qu'on retire parce que l'image est suffisante et il n'y a pas besoin de l'écrire. Et, ou inversement, il faut rajouter un petit peu de texte là pour que l'image soit mieux accompagnée. Donc c'est vraiment un travail très subtil entre l'image et le texte, et qu'une fois les deux réunis, on a une vraie histoire. Peut-être une autre histoire, d'ailleurs, parfois. On peut, si on regarde que les images, quand un enfant ne sait pas lire et qu'il regarde un livre, il n'a pas besoin du texte, il se raconte son histoire, et ça, c'est important.
Tout à fait, oui. Justement, mon petit frère, par exemple, avant de s'endormir, comme il est encore un peu petit, on lui a dit qu'il pouvait lire des histoires, sauf que maintenant, lui, il lit une BD sans parole, mais on comprend des histoires, mais parfois, il va lire des histoires, des BD, par exemple, que j'ai, mais sans même lire les bulles, il va comprendre l'histoire.
Mais oui, et puis après, même si c'est pas la même histoire, il va faire son histoire. C'est oui. Ça qui est intéressant. C'est ça aussi, je fais pas mal de... On édite dans la maison quelques livres sans texte. C'est aussi intéressant de voir comment on peut travailler.
C'est vraiment cela que je ne peux pas amener à la radio. Il y en a beaucoup que j'adore, mais c'est pas possible. Et là, nous allons passer à Polo et Catherine Ringer, Sous la mer, toujours vivant.
C'est parti.
Sous la mer, sous l'océan, il y a des films en noir et blanc, au ciné, ma permanent du temps qui passe. Y a des épaves englouties, oubliées, sous les replis d'une eau plus sale que tes nuits, seule dans l'espace. Toujours vivant, laisse remonter à la surface les mots que tu n'as jamais dit, les mauvais jours que tu entasses sous ta carapace. Toujours vivant, ouvre les fenêtres mouillées, les portes de métal rouillé, de tes souvenirs verrouillés à marée basse. À l'envers comme les nuages en hiver de ton enfance. Noyé au gré du courant, le soleil n'est plus qu'une ombre, un reflet dans la pénombre de l'existence. Toujours vivant, laisse remonter à la surface les mots que tu n'as jamais dit, les mauvais jours que tu entasses sous ta carapace. Toujours vivant, ouvre les fenêtres mouillées, les portes de métal rouillées, de tes souvenirs verrouillés à marée basse. Il y a des films en noir et blanc, au cinéma permanent du temps qui passe. Sous la mer, sous l'océan, il y a des films en noir et blanc, au cinéma d'un enfant toujours vivant. Laisse remonter à la surface jamais dit les mauvais jours que tu entasses sous ta carapace. Et toujours vivant, ouvre les fenêtres mouillées, les portes de métal rouillées, de tes souvenirs verrouillés à marée basse. Toujours vivant, laisse remonter à la surface les mots que tu n'as jamais dit, les mauvais jours que tu entasses sous ta carapace. Sous la mer, sous l'océan, il y a des films en noir et blanc, au cinéma d'un enfant toujours vivant,
toujours vivant,
toujours vivant, toujours vivant.
Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste, des cailloux dans l'engrenage, l'enfance poil à gratter, avec Thierry Magnier. Tu voulais lui poser une question.
Donc j'ai une question. Vous êtes combien dans l'édition, s'il vous plaît?
Alors on est, alors c'est, oui, ce que je voulais parler un peu de l'équipe, parce qu'une maison d'édition, c'est pas une seule personne, c'est pas parce qu'elle porte mon nom que je suis tout seul à travailler, bien au contraire, c'est des collaboratrices avec moi, une personne qui s'occupe des albums, tout ce qui est images, c'est Camille Gauthier, une personne qui s'occupe de tout ce qui est le texte pour les romans, et parfois pour un mélange roman graphique, c'est Charline Van Der Porte, qui est assistée de Juliette Gaillard. Et puis aussi, on a une personne qui s'occupe de tout ce qui est le commerce, parce qu'il faut vendre les livres, évidemment, c'est important, et ça, c'est Sarah Benamou. Et puis quelqu'un qui s'occupe de la presse, qui s'occupe de la communication, et ça, c'est Camille Seub. Voilà, c'est notre petite équipe. Alors, on fait partie de la maison, Thierry Magnier fait partie de l'ensemble des éditions Actes Sud. Voilà, et donc, j'ai travaillé un moment pour l'ensemble de la jeunesse chez Actes Sud. Maintenant, en vieillissant, je m'occupe plus que de la maison Magnier, c'est très bien comme ça.
Mais c'est déjà énorme, parce que vous avez un stand assez conséquent à Montreuil, au Salon du Livre, où vous avez eu plein de récompenses.
On a plein de récompenses et on en est fiers, parce que, bah, vous savez, les récompenses, c'est là aussi, ça fait plaisir à une équipe. Ça veut dire qu'on ne se plante pas, que ça intéresse encore des gens, parce que c'est toujours un peu... On est quand même un peu solitaire quand on est... Même si on bouge beaucoup, hein, toute l'équipe, on est toujours dans les librairies, on va faire des conférences, on va faire des salons, on rencontre nos lecteurs. Mais c'est important d'avoir des... C'est vrai qu'on en a beaucoup, enfin beaucoup, oui, c'est vrai, de récompenses. Mais c'est plaisant pour nous, c'est aussi rassurant pour l'auteur, parce que l'auteur, il a besoin aussi de reconnaissance. Et aujourd'hui, c'est pas facile d'être auteur en littérature jeunesse, en adulte non plus d'ailleurs. Je crois que c'est un métier excessivement fragile. Alors, une fois ça marche, une fois ça marche pas. On gagne pas beaucoup notre vie en écrivant, hein, on le sait, à part quelques-uns qui s'en sortent. Donc c'est vrai que toutes ces récompenses, c'est important. Et quand vous dites un grand stand, moi j'aimerais bien qu'il se fasse le double, tellement on a de livres à montrer. Mais on produit à peu près une soixantaine de livres par an.
Par an. Donc, bah, c'est déjà pas mal.
Donc c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail de... Et puis en plus, dans ce métier, on dit beaucoup plus de fois non que de fois oui. On reçoit beaucoup de projets auxquels on est obligé de dire non parce que ça ne correspond pas à ce qu'on a envie de montrer. Et voilà, on choisit et les choix sont toujours très difficiles. J'aime bien votre slogan ni Dieu ni maître. Ça me plaît bien parce que j'ai l'impression d'être vraiment dans cette mouvance. Moi, j'ai pas envie qu'on me donne des ordres de savoir ce qu'on doit faire et tout. Je pense que c'est un travail d'équipe. De temps en temps, on a des discussions plus fortes en disant mais non, c'est pas bien, mais si, c'est bien. C'est ça qui est intéressant aussi. Et
j'espère que ça vous arrive de pas être toujours d'accord.
Oui, ça nous arrive de pas être... Mais bon,
mais sans méchanceté, sans hargne,
oui,
sans...
Ça,
voilà.
À force de travailler ensemble, on a quand même une vision de ce qu'on a envie de défendre. Donc, Oui, souvent, mais quand c'est pas bien, on est tous d'accord. On dit, bah non, non, ça c'est pas bien, faut pas le faire. C'est un livre de plus et on n'a pas besoin d'un livre de plus. Il faut faire des vrais livres. Et ça, c'est toute cette complicité qu'il y a dans une équipe qui est hyper importante.
Et alors là, vous avez deux livres que je ne connais pas, enfin que vous m'avez montré juste avant l'émission en la préparant.
Oui, parce que vous m'aviez demandé d'apporter des albums que vous pourrez lire ensuite sur
oui,
l'antenne.
Oui, exactement, ça sera dans ces deux-là, ça sera dans
alors,
deux émissions suivantes.
Qui est sorti là au printemps, qui s'appelle La chasse aux rainettes d'Antonin Faure. Et là aussi, un travail de... C'est un jeune illustrateur qui commence. On a même des projets encore avec lui. Et c'est vraiment une peinture absolument incroyable. Je vais vous le passer, vous allez le regarder de plus près. Et La chasse aux rainettes, c'est ce que j'aime bien dans cette histoire. On est un peu dans l'histoire de l'heure du lapin. C'est-à-dire que ces espèces de complicité... Là, c'est une espèce de cousinage de vacances où tous les cousins et cousines sont ensemble, mais avec des grands, des plus petits, des encore plus petits. Et à un moment, ils savent qu'il y a un trésor à découvrir, mais c'est le dernier jour, donc il faut faire très très vite. Et quand ils font ils attendent la tombée de la nuit pour aller essayer de découvrir ce que c'est que ce secret qu'il y a sur ce petit lac. Et en fait, ça va être une histoire de luciole. Et c'est très poétique. Les images sont magnifiques. Et voilà, c'est une petite nouveauté du printemps.
Je ne crois pas avoir vu sur votre stand un livre qui était moche. les images sont toujours très belles. Vous savez vraiment bien choisir vos illustrations.
Vous savez, c'est ce qui est intéressant aussi, et on le voit bien justement quand on voit dans le salon de Montreuil les adultes qui regardent nos livres, c'est vrai qu'ils sont intéressés. Je me dis que c'est bien aussi que ça intéresse les adultes. Parce que les enfants n'ont pas forcément bon goût, hein, vous savez. Et donc, on essaie effectivement de travailler avec des artistes. Parfois même, on va chercher des artistes contemporains dans des galeries. On trouve quelqu'un qui n'a jamais fait de livre pour enfants. Et on se dit, tiens, il serait bien de travailler avec lui ou avec elle. Donc, c'est vrai qu'on essaie aussi d'attirer des gens qui ont envie de s'exercer à quelque chose de différent qu'est un livre, parce qu'un livre, quand on est artiste, un livre, c'est pas une galerie d'art, quoi. C'est un lieu précis, avec un format, avec un nombre de pages. On peut pas se dire, tiens, comme un artiste qui va dire dans une galerie, vous mettez cette image-là ici, il n'y a pas de limite. Là, on est limité, et c'est un exercice de style pour un artiste et pour un écrivain de rentrer dans un cadre. Même si chez nous, on n'a pas vraiment de format. Si le livre demande un très grand format, mais je crois que vous les aviez vus, le Michael Caillou et Marie Desplechin,
ah,
le
oui.
ventre de Joseph.
Oui, là, on ne sait pas où le mettre tellement il est grand, et les librairies sont là, bien embarrassées parce qu'il est tellement grand.
Là, c'est typiquement, Michael Caillou est un artiste qui travaille pour plusieurs marques, même Dior, etc., et qui fait du papier peint, et qui fait des vases pour Baccarat, etc., et qui fait des expositions absolument splendides et somptueuses. Et c'est vrai que là, la fois où je l'ai rencontré, je lui ai dit, est-ce que ça vous intéresserait de faire un livre pour les enfants? Et il a craqué complètement en disant, mais oui, j'aimerais bien. Et le dernier qu'on vient de faire, donc c'est celui que vous avez vu, Le ventre de Joseph, avec un texte de Marie Desplechin. Mais voilà, là, ce livre méritait un grand format, et même si on n'arrive pas à le ranger, c'est pas grave, c'est un objet, avec un travail aussi de gravure et d'impression, avec une cinquième couleur métallisée, verte. Enfin, on essaie à chaque fois de trouver quelque chose, un petit plus à ce livre pour qu'il soit beau.
Vous avez un univers de couleurs pour chaque livre, celui du Cherokee et celui de la chasse aux rainettes, c'est très très différent. Il y en a un qui est dans les couleurs sombres, plutôt nocturnes, et il y en a un autre où c'est du flash, c'est du
oui,
c'est, vif.
En fait, on a envie, parce que là aussi il y a une cinquième couleur flashy, mais en fait on a envie aussi on a tous envie, c'est de découvrir des choses nouvelles. Si on commence à faire toujours la même chose, on se retrouve dans quelque chose de barbant, quoi. Moi j'aime bien un peu découvrir, risquer aussi, parce que ça c'est le premier boulot d'un éditeur, c'est de risquer des choses dans sa fabrication, dans son discours, dans voilà, on risque, on ne sait pas, est-ce que ça va marcher ou pas.
Et c'est fois imprévisible, c'est quelquefois
c'est complètement imprévisible, mais c'est ça qui fait le sel de ce métier, c'est-à-dire que c'est un peu des coups de poker parfois, hein. On se dit ça va super bien marcher, on en est sûr, là il n'y a pas de raison, et puis ça fait un flop, parce que, alors très souvent c'est parce qu'on arrive trop tôt, 5 ans plus tard, ou parce que l'actualité n'est pas celle-ci, enfin vous voyez, c'est très compliqué, parce que quand on commence un livre, quelquefois c'est 1 an, voire 1 an et demi, voire 2 ans avant, et le temps de le travailler, alors suivant les auteurs, ça va plus ou moins vite, hein. Certains prennent plus de temps, d'autres moins de temps, enfin, après trouver l'objet, le papier, etc. Donc il y a du temps, et puis ensuite une fois qu'il est terminé, il y a tout ce travail, j'allais dire, logistique, de l'impression de transporteur au diffuseur, puis ensuite dans les librairies, c'est du temps, tout ça. Et donc, quelquefois, on a un bouquin où c'est vraiment là qu'il faut le sortir. Malheureusement, il va sortir que dans un an, quoi. Et on n'est pas là où il faut, au moment.
Ah ouais, d'accord.
Donc ça, c'est parfois, on arrive, paf, il tombe en plein dedans, et la presse va en parler davantage, et donc parler plus d'un livre, ça veut dire qu'il va être plus présent, qu'il va être plus partagé, parce que c'est notre rôle, c'est de partager ce qu'on aime faire. Et voilà, donc on essaie toujours d'être dans la recherche de quelque chose de nouveau et de risqué.
Alors là, il y a un deuxième livre que vous avez apporté pour lire plus tard dans une autre émission, parce que je voudrais qu'on passe aussi aux jeunes ados et aux jeunes adultes.
Alors là, c'est un livre qui a une fabrication assez particulière, et là aussi, il faut le découvrir. C'est comme un carnet,
oui,
un carnet de voyage.
Ça, oui.
Ça s'appelle L'Expédition. Et c'est de Stéphane Servant qui a écrit le texte et Audrey Spiry qui a illustré. Et c'est vraiment un livre, c'est presque un conte initiatique. C'est un conte initiatique d'une petite fille qui va grandir, vieillir et avoir un enfant, etc. etc. C'est un passage comme ça de la vie. Et voilà, c'est un très beau livre que je vous passe.
D'accord. Et quand vous avez un duo... texte et illustration, les deux personnes se connaissent déjà, ou c'est vous qui suggérez, ou ça dépend des fois?
Alors c'est très 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 variable, c'est-à-dire quelquefois on a un très très beau texte, on l'aime beaucoup, et on va essayer de marier l'auteur avec l'illustrateur, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver l'image qui colle bien et qui est dans un même univers que l'auteur. Quelquefois, on a des projets qui arrivent et c'est l'auteur, il y a déjà un duo. Donc, ils ont déjà commencé à y travailler ensemble, ils ont parlé ensemble, etc. Parce qu'on aime bien aussi que l'auteur connaisse bien son illustrateur, qu'il soit d'accord pour choisir l'illustrateur. Je crois que c'est important, parce que si on prend un texte et puis qu'on le publie sans le montrer à l'auteur, c'est un peu dommage. Je crois que le mariage doit être réussi. Ça, c'est important.
Alors celui-là, je le lirai dans une émission, une autre, bientôt, parce qu'il est assez long. Il est très dessiné, là, cette fois. C'est pas du tout le même univers graphique,
oui,
que les
là,
précédents.
Oui, on est dans un autre univers, un petit peu plus jeté. C'est-à-dire que c'est dans l'expédition, on se retrouve, comme je vous disais tout à l'heure, un carnet de voyage.
Oui, tout à fait.
On voit des choses un peu partout, comme ça, on découvre des choses. Comme c'était écrit comme ça et comme c'était illustré comme ça, il fallait effectivement avoir l'objet qui colle avec ce qu'on a envie de dire.
Nous allons passer à un cinquième titre qui s'appelle Nataf, le buissonnier.
Non, c'est De Nataf.
De Nataf, oui, tu as raison. J.P. Nataf, et là, j'avoue que je ne le connais pas.
Bien, va le découvrir.
Je l'ai découvert, moi aussi, en écoutant ce disque. Le buissonnier, ça dure 5 minutes.
Croyez-le, mais ici, moi, je fais.
dans ce livre, il y a dans l'univers graphique l'image de la mer, on dirait du papier à la cuve par moment.
Oui, alors là, c'est un travail encore c'est différent des autres.
C'est très différent.
On se retrouve dans des...
Alors, je voudrais faire part d'un coup de fil qui m'a fait bien plaisir. Et c'est une autrice qui est venue plusieurs fois dans ce studio, dans mon émission, puis dans d'autres. C'est Cathy Itak. Vous avez le bonjour de Cathy Itak qui écoute l'émission.
Bonjour Cathy, j'espère qu'elle vous écoute encore. En plus, je l'ai déjà publié quand j'étais responsable d'Actes Sud Jeunesse. Et on a fait de très beaux livres ensemble, dont j'ai de très bons souvenirs. Et il y a bien longtemps que je n'ai pas vu Cathy Itak. Donc, je la remercie et qu'elle m'envoie des textes, c'est possible.
Ah oui, puis alors qu'elle nous ait téléphoné, là, ça me fait vraiment plaisir. C'est une grande autrice. J'ai chez moi des livres pour les jeunes enfants. Et puis, elle a écrit un trait de fusain qui est quand même un grand bouquin, qui est pour les ados, paru, je me souviens, Talent Haut, et elle a fait des tas de choses. C'est une grande autrice, et donc nous allons parler de vous. Mais la transition, c'est les ados. Alors, vous êtes aussi éditeur ado, Thierry Magnier.
Oui, on travaille. Alors, peut-être avant.
Ah, bah oui, celui-là.
Voilà,
bon,
vous m'avez demandé.
Un autre livre avant Marguerite Duras.
Pour Marguerite Duras, c'est vrai que je suis tellement fier d'être éditeur de Marguerite. C'est un livre, j'ai récupéré les droits du seul et unique livre qu'elle a écrit pour les petits, pour les enfants, dans les années 65, qui était illustré à l'époque par Bonhomme. Un illustrateur des années 70 assez connu à cette époque-là, que j'ai fait réillustrer par Cathy Coupry, Cathy est une des grandes de l'illustration de la maison. Et donc ce texte est très intéressant parce que même écrit dans les années 65-68, il était déjà assez révolutionnaire et je trouve qu'aujourd'hui il n'a pas pris une ride. Il est toujours dans la revendication de l'enfant qui sait dire non. Et je trouve que on n'en parle pas assez de ce texte de Duras. On parle de toute son œuvre qui est magnifique et que j'adore, mais on oublie que ce texte est aussi un texte fondateur pour plusieurs choses. Elle a écrit son premier film, Les Enfants. C'était en fait, ce livre, c'est presque le synopsis du film. Puis ensuite, il a d'ailleurs été aussi, il y a eu un court-métrage fait sur ce livre. Et puis après, elle a écrit Plus d'été chez POL, et qui raconte l'histoire de cette famille d'ouvriers de banlieue, et avec cet enfant dont Ernesto, qui est un petit révolutionnaire. Et on pourra regarder de temps en temps dans certaines biographies de Marguerite Duras qu'on dit oui, elle a commis un petit livre pour les petits enfants, ce qui m'énerve un peu.
Ah oui,
c'est jamais un petit livre et c'est jamais des petits, c'est des livres, c'est de la littérature d'une façon générale. Et donc elle a écrit ce livre et on dit oui, il s'appelle Ernesto parce que elle aimait bien Ernest Hemingway. Ce qui est faux totalement, parce que moi j'ai fait une recherche, j'ai écrit après un livre qui s'appelle La Duras, qui explique toute la genèse de ce livre. En fait, Ernesto, il s'appelle Ernesto parce qu'elle revenait de Cuba et qu'elle avait rencontré le Che, et que voilà, ce petit Ernesto était avant tout un révolutionnaire. Donc voilà, donc je vais lire un petit extrait.
Oui,
c'est ça,
bien sûr.
D'accord, alors je ne suis
Merci.
Pas un grand lecteur, mais on va essayer d'être à la hauteur. Donc c'est A Ernesto de Marguerite Duras et c'est illustré par Cathy Coupry. Voilà, ça commence comme ça. Ernesto va à l'école pour la première fois. Il revient, il va tout droit trouver sa maman et lui déclare « Je ne retournerai plus à l'école ». Elle le regarde, la maman s'arrête d'éplucher les pommes de terre. « Pourquoi ? » demanda-t-elle. « Parce que, » dit Ernesto, « à l'école, on m'apprend des choses que je ne sais pas. »« En voilà une autre, » dit la mère en reprenant sa pomme de terre. Lorsque le papa d'Ernesto rentre de son travail, la maman le met au courant de la décision d'Ernesto. « Tiens, » dit le père, « c'est la meilleure. » Le lendemain, le papa et la maman d'Ernesto vont voir le maître d'école pour le mettre au courant de la décision d'Ernesto. Le maître ne se souvient pas particulièrement de quelqu'un, de quelconque Ernesto. « Mais si, un petit brin !» décrit la mère. « 7 ans, des lunettes. fait pas grand bruit, faut dire, mais quand même. Non, je ne vois pas d'Ernesto, dit le maître, après réflexion. Personne ne le voit, dit le père, il n'a l'air de rien. Amenez-le-moi, conclut le maître. Le surlendemain, le papa, la maman et Ernesto se retrouvent devant le maître d'Ernesto. Le maître regarde Ernesto. « C'est vous, Ernesto ? » demande-t-il. « Exact, » dit Ernesto. « En effet, » dit le maître, « en effet, je ne vous connais pas. »« Moi si, » dit Ernesto. La maman montre Ernesto et hausse les épaules. « Vous voyez tout de suite le genre, » dit-elle. Après quoi, chacun se tait, le maître réfléchit, le papa aussi. La maman d'Ernesto et Ernesto, eux, regardent le matériel scolaire. Le pousse-pousse, le train, la rose, le papillon, la terre, le président, le chinois, l'homme. Alors, conclut encore le maire, on refuse de s'instruire ? Exact, dit Ernesto. Et pourquoi ? Oui, pourquoi, enfant Ernesto ? Ça s'est duré, dit Ernesto. Le maître ne se contient plus. Il crie, l'instruction est obligatoire. Pas partout, dit Ernesto. « On est ici !» crie plus fortement le maître. « On est ici, on est ici, on n'est pas partout !»« Moi si !» dit Ernesto. Le maître pointe alors son doigt sur la photo du président. « Et lui alors ?» hurle le maître. « Qui c'est lui, hein ?» Ernesto regarde attentivement derrière ses lunettes. Mais il se trompe. Il voit le noir à côté. « C'est un bonhomme !» dit-il. « Et ça ?» supplie la mère en montrant le papillon orange et bleu épinglé dans sa boîte vitrée. « Ernestino, dis ce que c'est, au moins ça !»« Un crime, » répond Ernesto. « C'est un crime. »
Voilà, vous
voilà,
vous
je
vous
laisse
arrêtez
découvrir
là.
La suite. Ah oui, mais à la fin, donc Ernesto dira non. Et le maître en prendra un coup sur sa... Parce qu'à l'époque, le maître avait quand même une autorité, on ne pouvait certainement pas dire quoi que ce soit. Ce qui... Et voilà, et parfois, il y a encore des instituteurs qui essaient d'avoir cette espèce de force, de dire ce qui est bon et pas bon. Et c'est ça qu'il faut combattre, quoi. L'enfant est normalement, c'est celui qui décide quand même des choses. Et Ernesto est vraiment un petit ché en herbe.
D'ailleurs, moi, je suis un peu déçue parce que je voulais tellement lire la suite parce que là, ça, l'histoire, moi, je rentrais dedans. Hein.
Ah bon, bah, tu veux que je continue alors ?
Bah, si vous voulez, oui.
Alors, on va continuer. Je reprends le livre. ça me fait plaisir. Le maître s'est levé, il montre son matériel, il boue. Et ça, dit le maître, montrant le globe terrestre. C'est un ballon de football, une pomme de terre. C'est un ballon de football, une pomme de terre et la terre, dit Ernesto. Le maître s'assied découragé. La maman montre Ernesto, il a sorti un chewing-gum de sa poche. Un crétin, soupire-t-elle, mais oui, voilà ce que ce sera. Non, dit tendrement Ernesto à sa maman, et lui sourit. Faut pas t'en faire, lui dit-il gentiment. « Mais c'est triste !» dit la maman. « Non, pas du tout !» répond Ernesto. « Tu crois ?» demande la mère. « Sûr !» dit Ernesto. « C'est vraiment étrange !» dit le maître en croisant ses bras. Le maître, le papa et la maman regardent Ernesto. « Qu'est-ce qu'on va devenir ?» demande la maman. « 7 ! On en a 7 !» Le maître se gratte la tête, le père regarde ses pieds. « C'est effectivement un cas unique, » soupire le maître. « Heureusement. »« Tu vois, » dit le père à sa femme, « c'est toujours comme ça. » Le maître sourit, perspicace. Il vient d'avoir une idée. « Donc, » dit-il en marchant dans la classe, les mains derrière le dos, « donc nous nous trouvons devant un enfant qui ne veut apprendre que ce qu'il sait déjà. »« C'est ça, » dit le père satisfait. « Et j'en ai 7, monsieur l'instituteur, j'en ai 7, j'en ai marre !» dit la mère. Ernesto, imperturbable, mastique son chewing-gum et a un air buté. «
C'est quoi ?»«
Mais comment ?» continue le maître Finot. « Comment l'enfant Ernesto envisage-t-il d'apprendre ce qu'il sait déjà ? Hein ? Tiens, Mais c'est vrai, s'exclament admiratifs les parents. Ernesto fronce ses sourcils et riposte. En rachachant. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Demande le maître avec soupçon. Une méthode, une nouvelle méthode, répond candidement Ernesto. Petit insolent, dit le maître. Je vais vous apprendre, moi. Je comprends rien, dit la maman. Et toi, Emilio ?
Perdu le fil, dit le papa.
Le maître se rapproche maintenant d'Ernesto. Il s'est piqué au jeu. Et peut-on savoir ce que l'enfant Ernesto sait déjà ?
Rien, dit le papa, consterné. Rien de rien. N'avait qu'à le regarder.
Puis, en plus, du reste, dit la maman, il est complètement miro.
Ça n'arrange rien.
Le maître poursuit son raisonnement. J'ai posé une question, il me semble. Que savez-vous, l'enfant ?
Ernesto, cette fois, ne se fait pas prier pour répondre.
Non. Je sais dire non. Et c'est bien suffisant. Le maître ne peut en supporter davantage. Il lève sa main, mais la mère bondit. Y touchez pas, ou je cogne, dit-elle avec feu.
Le père la retient. Il se regarde désolé.
Bon, dit le maître. Bon, d'accord. Il revient s'asseoir derrière son bureau, il sourit, la maman sourit aussi, le papa sourit, Ernesto sourit à sa maman et la maman sourit à Ernesto.
Le maître, plus calmement, revient à la charge.
Mais pourquoi, oui, pourquoi l'enfant Ernesto refuse-t-il d'apprendre ce qu'il ne sait pas ? Pourquoi ?
Réponds, Ernesto, réponds, dit le papa, réponds, si t'as compris.
Pourquoi ? Dit le maître, dans un sursaut de rage.
« Parce que c'est pas la peine, » dit Ernesto.
« Au fond, » dit la maman, haussant les épaules. « Au fond du fond, » reprend le papa d'un air penaud.
Le maître se relève et se retourne vers Ernesto.
« Alors comment l'enfant Ernesto saura-t-il lire et écrire et compter, hein ? Comment saura-t-il quoi que ce soit dans ces conditions ?»«
Je saurai, » dit Ernesto.
« Oui, mais comment ? » hurle le maître.
« Oh, Fernesto, par la force des choses ?»«
Ah !» dit le maître, « vous dépassez les bornes. Modérez vos expressions ou vous allez me braquer et je ne vais plus répondre de ma colère. »«
Vous pouvez rien, bâilla Ernesto. »«
Emilio, » dit la maman, bon, « je vais en venir aux mains. J'ai peur. »«
Allons, calmez-vous, monsieur le maître, » dit Ernesto.
« Oui, il vaut mieux, » reprend le maître.
« Ah, mais c'est pas le tout, » dit la maman. « Moi, j'en ai sept, et j'en ai marre, j'en ai sept, et je veux savoir. »«
Je rentre à la maison, » dit Ernesto, « ça suffit. » Ernesto se lève, il sort en mastiquant son chewing-gum.
« Alors ?» demande le père. « Alors ? Maintenant qu'il est parti, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un drôle d'oiseau, hein ?»
Le maître se tait. Il semble suivre le ciel, le vol d'une cigogne ou d'une autruche. Il hausse les sourcils.
C'est un cas imprévu et bien embarrassant.
Oui, mais à part ça, dit la maman, c'est bien beau tout ça. C'est notre enfant. Qu'est-ce qu'on va en faire, dit le papa.
C'est-il vrai qu'il saura lire un jour, demande la maman.
Lire et compter, dit le papa.
« Oui, lire et compter, aller et venir, conduire et pas ou pas, boire et manger, travailler, travailler, travailler encore, se tromper ou pas, et tout leur machin et leur Saint-Frusquin. »
Le maître regarde avec des yeux vides. Le papa d'Ernesto est au garde à vous.
« Hélas, » dit le maître avec beaucoup d'emphase, « hélas, madame, oui. »
Eh bien, si je m'étais attendue à avoir un texte de Marguerite Duras, magnifiquement lu par Thierry Magnier, l'éditeur de ce livre, nous allons passer à un autre titre musical, si vous permettez. Et là, c'est Magie de chère fille. Oui, c'est Magie de chère fille. Oui. C'est la 6, pardon. Fredo, des œuvres de Barbac, Gizmo, Mike, Riquet et Eyonlé. Eux, ils parlent de toi.
Et ils restes de marbre, tu ne les entends pas.
Tu en as des chandelles qui tournent autour de toi.
Des fantômes rebelles qui dansent sur tes pas. Le silence est cruel, mais ça n'en finit pas.
Eux ils parlent, sans toi.
Ils dansent, ils dansent autour de toi.
Immobile, toi tu penses, mais tu ne danses pas.
Le tambour est trop fort,
la mélodie sans joie.
Qu'elle enterre ton corps quand elle chante sur toi. En hurlant à la mort, que ça n'en finit pas.
Eux ils dansent, loin de toi.
Et ils chantent, sans toi.
Tu entends mécontent,
mais tu restes sans voix. Tu as trouvé les mots sans trop savoir les lire.
Tu as tourné le dos pour apprendre à écrire.
Larmes sur ton stylo, mais ça n'en finit pas.
Eux ils chantent, mais ils chantent sans toi.
Mais nous t'entends ma blague en peau.
Si tu parles de toi,
maladroite, imprudente, à faire le premier pas.
Peu importe ce qu'ils pensent,
il faut parler de toi.
Qu'enfin ils dansent, qu'ils dansent autour de toi. Qu'enfin ils chantent
et qu'ils chantent avec toi.
Un viol à ton silence, il s'agit bien de ça.
Et ils dansent, danseront pour toi.
Et ils chantent, ils chanteront pour toi.
Et ils parlent, parleront de toi.
Des cailloux dans l'engrenage, l'enfance, poil à gratter, 160e émission. Nous sommes le 21 mai 2025 avec l'éditeur Thierry Magnier qui vient de nous lire magnifiquement un texte que je ne connaissais absolument pas de Marguerite Duras, illustré à la façon d'un cabinet de curiosité, alors encore un univers graphique très différent, par Cathy Coupry. Et il y a dans le même format, le livre qu'il a écrit lui-même à Duras, alors toujours aux éditions Thierry Magnier. Ça vient de paraître, c'est...
Non, ça a déjà 7 ans. Ça fait partie effectivement du fond de la maison, parce que bon, un livre sur Duras, il n'y en a pas tant que ça.
Et alors, quand Marguerite Duras écrit un livre pour enfants, alors ça, je suis soufflée, je ne savais absolument pas. Et l'autre livre, c'est un peu la genèse, on peut dire ça, la genèse de son livre pour enfants, avec des photos, des écrits manuscrits, des ratures.
Mais j'ai une question. Est-ce que le nom donc, du livre écrit donc, par Thierry Magnier, est-ce que c'est à Duras pour faire hommage à A. Ernesto?
Absolument, tu as tout trouvé. Voilà, j'ai voulu jouer sur le A. Ernesto et de dire A. Duras et d'expliquer effectivement la genèse de ce livre.
Bel ouvrage, merci pour cette découverte. Et alors maintenant, nous allons grandir en âge, nous allons passer aux jeunes.
Plus de 16 ans, plus de 15 ans.
Aux ados. Et jeune adulte, il nous reste même pas une demi-heure. Il aurait fallu deux fois deux heures pour parler de tout ce que allez nous faire découvrir là. Ce ne sont plus des albums illustrés.
Alors justement, après les albums illustrés, dans notre maison, on a plusieurs collections. On a une collection qui s'appelle Petites Poches, qui sont des textes très courts, qui, si on les lit à haute voix, c'est à peu près 13 minutes. Ce sont des petits livres, format poche, pas cher du tout, que tout le monde peut avoir dans sa poche et lire en quelques minutes. Ça, c'est une collection pour les plus petits. Et il s'avère que cette collection, on l'avait décidée au départ pour les premières lectures, pour les... avec des textes où il n'y a pas des histoires de confiture turture ou de lapin pimpin ou de choses comme ça, mais des vrais textes de société qui parlent aussi bien de la mort, du divorce, mais aussi de joie, de gaieté. Parce que c'est, dans la maison, c'est aussi on travaille un peu dans la joie quand même. Et ça, en ce moment, ça ne fait pas de mal. Et donc, ce sont des textes qui étaient prévus pour les... s'appelle romans, mais qui sont tout petits, pour justement les premières lectures. Et puis on s'est aperçu qu'en fait, ces livres sont très, très souvent utilisés, même pour les 6e et 5e qui sont en difficulté de lecture. Et puis même, après, on voit les bibliothécaires qui les utilisent pour les primo-arrivants, par exemple, parce que ce sont des textes qui traitent de sujets dont on peut parler en tant qu'adulte, avec des vrais mots, etc., et pas effectivement bêtifiants. Donc il y a cette collection-là. Après, il y a une autre collection qui s'appelle En voiture Simone, qui est plutôt légère et drôle pour les 9-12 ans. Et ensuite, une collection d'ados qui, voilà, qui traite des sujets, souvent des sujets de société et choses comme ça. Et puis, il y a cette collection qui est maintenant, qui va avoir 4 ans, je crois, peut-être, à peu près, et qu'on avait décidé avec... avec Charline Van Der Pot, on avait décidé de faire de parler des sexualités, de parler aux adolescents, on va dire aux plus de 15 ans, la majorité sexuelle en France est de 15 ans, alors parlons aux enfants pour pas avoir d'histoire, de parler de toute sexualité possible, du genre, de, mais tout ça avec joie, avec où on peut dire ses fantasmes, où on peut y aller, quoi, où il n'y a pas d'interdit, voilà. Donc il faut quand même savoir que cette collection a démarré un peu difficilement, puisque un des livres, des premiers livres était de Manukos, qui s'appelait « Bien trop petit ». En deux mots, c'est l'histoire d'un garçon qui est sous les douches avec d'autres et qui lui disent avec ce que tu as entre les jambes, jamais tu y arriveras et tout. Et il est complètement bouleversé et ça va basculer pour lui dans des fantasmes absolument épouvantables. Mais tout ça bien écrit, et on est vraiment dans la littérature. Et Darmanin a sorti un décret, sans nous en avertir, ou presque, pour interdire ce livre aux mineurs, à la vente aux mineurs. Je crois que c'est le seul livre jeunesse en France où il y a, parce que je l'ai ressorti, les gens peuvent l'acheter, mais avec écrit, ce livre, est, par décret de Darmanin, est interdit à la lecture des mineurs, ce qui est absolument ridicule, puisque vous allez dans n'importe quelle librairie, jamais un libraire vous demandera votre pièce d'identité. Et je pense que quand on a 17 ans ou 17 ans et demi, on peut lire ce qu'on veut et quand on veut. Et ça fait partie d'une certaine liberté, et particulièrement l'accès à la culture. Donc, ce monsieur que j'adore, j'ai évidemment pas... J'étais un peu découragé, j'étais beaucoup soutenu par les libraires, par les bibliothécaires, par les documentalistes, parce qu'ils trouvaient que c'était bien d'avoir une collection qui parle de ces sujets et qui parle nettement de ces sujets sans tabou et avec parfois de légèreté, quelquefois avec inquiétude, etc. Tout le questionnement que peut avoir un adolescent par rapport à sa propre sexualité et par rapport au corps et par rapport au corps de l'autre, etc. etc. Donc... heureusement, on était un peu abattus parce que effectivement, ça nous a fait un coup. Et donc, j'ai décidé, effectivement, il y a maintenant presque 2 ans en septembre, j'ai attaqué Monsieur Darmanin et c'est en justice, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et en plus, maintenant, il est ministre de la Justice, donc ça ne va pas arranger les choses. En tout cas, toute cette histoire est complètement folle. Parce que plein de vices de forme, parce que n'importe quoi. Enfin, c'est tout d'un coup s'attaquer à un seul livre pour dire oh ben là, ça y est, il faut pas que les enfants le lisent, comme si c'était horrible. Alors, c'est vrai que là, on a été aidé par Nicolas Mathieu. Je sais pas si vous connaissez non. Nicolas Mathieu, c'est un écrivain il y a des films qui vont sortir bientôt. Connemara et puis celui d'avant, le prix Goncourt, c'était et les enfants après eux. Et Et il a trouvé ça tellement stupide, on le connaissait, il a dit mais moi je vous aide, et il a fait un hashtag sur son truc, et il a demandé à tous les gens qui voulaient d'écrire quelque chose sur leur première lecture, qui était que ça pouvait être Le blé en herbe de Colette, ça pouvait être toutes ces choses qui nous ont émus et j'allais dire émoustillés quand on était ado, parce que effectivement c'était important dans sa construction. Et voilà, et donc et on a en 15 jours on a fait un livre, et dont d'ailleurs, et ça c'est très important parce qu'il faut les aider absolument, tous les droits de ce livre vont au planning familial. Parce qu'on n'arrête pas de dire que ce soit les profs doivent parler de la sexualité aux élèves, ce qui est ridicule. On peut pas dire tout ce qu'on veut à un prof qu'on va avoir toute l'année, alors que ces gens du planning familial qui font un travail extraordinaire de militantisme, de fourmis dans les classes pour expliquer, là on peut se livrer parce qu'on les revoit pas, on peut y aller. Mmh. Et ils ont de moins en moins d'argent, donc tous les droits vont à cette association.
Et ce livre s'appelle Lire et dire le désir, préface de Nicolas Mathieu. Donc, la quatrième de couverture. Ça vaut 10 euros, donc c'est un prix tout à fait raisonnable. C'est un livre un peu plus grand qu'un livre de poche. De l'incontournable Bicyclette bleue de Régine Deforge au SAS de Gérard de Villiers, en passant par les romans de Judy Blume, celle-là je ne la connais pas, ça ne fait pas... Anaïs Nin, oui bien sûr, dans mon adolescence j'ai beaucoup lu Anaïs Nin, ou Annie Ernaux. Nombreux sont les livres à l'origine des premiers émois adolescents. Aujourd'hui, femmes et hommes de tous âges sont revenus sur les pas de leurs 15 ans pour se remémorer cet éveil à la sexualité grâce à la littérature. Après l'interdiction à la vente aux mineurs du roman « Bien trop petit » de Manu Kos, collection Lardeur, édition Thierry Magnier, l'écrivain Nicolas Mathieu lance l'initiative. Alors, dièse, ça m'énerve le hashtag. On dit hashtag, moi je dis dièse, c'est un signe musical. When I was 15 sur Instagram, donc W-H-E-N, I majuscule W-A-S 15, plus loin Instagram. 70 témoignages ont été sélectionnés pour former ce recueil qui se veut une réponse à cette censure injuste et hypocrite. Alors, osons l'ardeur. Est-ce qu'on a le temps? Il reste un quart d'heure. Vous avez encore plein de choses à nous dire.
Je peux vous parler, par exemple, d'un des titres de la collection L'ardeur, qui avait justement eu la pépite d'or à Montreuil, qui est un texte assez fort de Hélène Vignal. C'est vraiment, pour le coup, là, on se retrouve devant un texte d'une jeune fille qui devient femme et qui cherche sa sexualité et qui va aussi chercher sa politique. C'est-à-dire que c'est l'âge où ça bascule, où on est un enfant ou une enfant, et tout d'un coup, eh bien, on a les choses bougent dans sa tête, dans son corps, dans sa tête, etc. Et c'est vraiment ce passage magnifique qui a été d'ailleurs joué au théâtre et qui est vraiment un texte d'une beauté absolument extraordinaire. Et puis, de vous parler aussi d'un des derniers qui a eu aussi deux prix, le prix Vendredi et le prix Cendre. Ça s'appelle La Chasse de Maureen Desmailles. Et alors là, c'est sur pratiquement 250 pages. C'est l'histoire d'un héros, héroïne, on ne sait pas, et on ne saura jamais, parce que l'auteur a décidé de ne jamais dire si c'est un garçon ou une fille. Donc on peut essayer de piéger à tout moment, on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille qui parle, on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon qui fait toutes ces choses et toute cette vie. Et donc voilà, c'est vraiment un exercice de style assez impressionnant. Donc on ne sait pas les histoires d'amour qu'elle a avec un garçon ou avec une fille, on ne saura jamais. Voilà. Donc c'est une façon aussi de dire aux adolescents, tout en restant dans la littérature, parce que ça j'y tiens beaucoup, ce ne sont pas des essais, ce ne sont pas des livres pédagogiques, loin de là. On est dans la fiction totale, et donc
on a le droit quand même de dire ce qu'on veut dans la fiction. On est encore en démocratie, j'aimerais qu'on entende un peu ça et qu'on arrête de faire ces fausses censures dont tout le monde, on étouffe sans arrêt. Et c'est tout le temps, et partout, partout, partout en ce moment, il y a cette espèce de chapeau qui se met sur toutes les décisions qui sont prises à droite et à gauche, sur le manque de liberté, qu'on s'en rend pas compte, mais ça vient. Cette liberté, elle commence à être... Donc voilà, donc, je voulais pousser un petit cri aux auditeurs en disant « Allez acheter ces livres de la collection Ardeur. Non seulement vous ferez plaisir, mais vous ferez plaisir à vos adolescents. Et en plus, ça va leur permettre de vous poser des questions, peut-être. Ça va leur permettre de réfléchir à ce qu'ils sont. Donc voilà, je trouve que c'est... Ça aussi, ça fait partie du métier d'un éditeur, c'est d'avoir des convictions et de les défendre. Et j'irai jusqu'au bout au tribunal pour me défendre, même si je sais très bien comment ça va se terminer. Mais bon, j'avais quand même été, si je ne retirais pas les livres, j'avais 150 000 euros d'amende et un an de prison. Donc c'est quand même assez violent pour un livre, quoi. Un livre, alors que par ailleurs, vous avez, et je ne suis pas contre, mais ça existe, par ailleurs, vous avez plein de livres qui sortent de dark romance qui sont épouvantables, où là, il n'y a pas de consentement, alors que nous, on fait très attention à ça, et que la femme est complètement mise à côté, c'est horrible. Et là, ça existe, ça se vend par millions d'exemplaires, alors que nous, on n'avait vendu que 800, quoi. Donc, faut arrêter un peu de peut-être que moi, je ne fais pas partie du groupe Bolloré, donc ça n'arrange pas les choses.
Un dernier titre musical, celui que j'avais annoncé tout à l'heure, de Magie de chère fille, Les Innocents. Et pendant ce temps-là, nous choisirons les dernières minutes à l'antenne. Merci Thierry Magnier. À tout de suite.
Il est tombé du toboggan, mais où t'as vu qu'il y avait un toboggan? Ici, il n'y a pas la moindre balançoire, il n'y a même pas de banc pour s'asseoir. Pour pas qu'on le traite de poule mouillée, il se lavait au lieu de crier, se met à courir derrière un ballon, du rouge dans son pantalon. Et nous cette façon de bâiller, de pas voir le loup dans le poulailler. Nous les innocents du balcon, on n'aime pas qu'on, on n'aime pas qu'on, on n'aime pas qu'on vienne nous déranger. On est comme ratatiné, dès qu'on nous met ça sous le nez. Et vous connaissez la chanson, on monte le son. Il dit que tout ça c'est sa faute, n'avait pas qu'à faire dans sa culotte. Y'a des endroits où quand tu pleures, la mauvaise herbe te fait pas de fleurs. Après pour ne pas qu'on l'engueule, il dit qu'il s'est fait ça tout seul. Et même répète même pas mal, on dit toujours ça quand on a mal. Et nous cette façon de bâiller, de pas voir le loup dans le poulailler. Nous les innocents du balcon, on n'aime pas qu'on, on n'aime pas qu'on, on n'aime pas qu'on vienne nous déranger. On est comme ratatinés, dès qu'on nous met ça sous le nez. Et vous connaissez la chanson, on monte le son. Qu'il appelle encore maman et qui voudrait par la fenêtre se jeter pour ne plus en être. Mais elle a peur de lire dans le journal qu'elle aurait dû se faire la malle. Et comme les proches sont des reproches, elle met sa langue dans sa poche. Et nous cette façon de bâiller, de pas voir le loup dans le poulailler. Nous les innocents du balcon, on n'aime pas qu'on, on n'aime pas qu'on, on n'aime pas qu'on vienne nous déranger. On est comme ratatinés, dès qu'on nous met ça sous le nez. Et vous connaissez la chanson, on monte le son. Tous les innocents de la terre ont des haltères aux paupières. Ils ont peur que par le courrier, on les saute de l'oreiller. Ils savent bien que le danger vit du lit à la salle à manger. Que c'est pas dehors qu'il se nourrit, puisqu'il est dans la bergerie. Nous les innocents de l'escalier, les petits voisins de palier. On a beau serrer les dents, on sait que là, on sait que là, on sait que là, on sait que là, que l'enfer n'est pas dehors mais dedans.
C'est parti.
C'était Magie de chère fille dans ce CD qui est une une compilation, la compile du label Irfan, le label des ogres de Barbal, qui s'appelle Mon petit loup, et c'est sorti en 2024. C'est un livre disque de la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. Oh là là, mon. Et alors, là, la dernière lecture d'un livre édité par Thierry Magnier, qui est « Lire et dire le désir », vous l'avez dit, vous avez expliqué la collection et les réactions et la menace qui pèse sur vous. Et voici un témoignage, donc, de plusieurs auteurs. Anne Georget. Été 2020, au bord d'un lac en Haute-Savoie, j'ai 15 ans. Derrière, le collège, devant, le lycée. Et entre deux, cet été qui semble ne jamais devoir finir, le dernier sans travailler, ponctué de baignades, de baisers trop facilement volés, de bals populaires, de soirées à traîner sur la place de l'église du petit village. On s'emmerde sec à franchement parler. Alors les 15 jours dans les Landes avec les parents, nos dernières vacances ensemble, s'annoncent bien. J'ai pris dans ma valise deux bouquins. Vendredi ou les limbes du Pacifique de Tournier. Et American Psycho de Bret Easton Ellis. Ma sœur de 2 ans, mon aînée, me l'a discrètement glissé. Deux salles, deux ambiances. Le soir couché, j'ai alterné les récits botanico-érotiques du premier et ce franchement cru du deuxième. Difficile encore, aujourd'hui, d'identifier clairement celui qui a suscité le plus d'émoi chez moi. Brûlante soirée, brûlante nuit, brûlant réveil, l'été de mes 15 ans aura été incandescent. Le jour de ma rentrée au lycée est apparu dans l'encadrement de la porte une grande brune et le feu ne m'a plus quitté. C'était mon premier amour, ma baigneuse de Gauguin. Et bien plus tard, mon premier grand chagrin.
Ça dit tout.
Ah oui, c'est...
C'est émouvant.
Oui, parce c'est que très beau.
On se dit que
très beau comme
les rencontres avec des livres...
Ouais.
C'est ça aussi, c'est d'être dans l'émotion, ces personnes qui ont donné ces témoignages. Moi, on a eu un mal fou c'était Juliette qui a beaucoup travaillé sur ce bouquin, qui travaillait avec nous, Juliette Gaillard. Et c'est vrai c'était compliqué de faire très vite parce qu'il fallait que ce livre sorte vite par opposition à ce qui se passait. Et, il fallait trier sur je ne sais plus combien de centaines de témoignages qu'on avait. On ne pouvait pas publier tout, il fallait que ce soit assez court quand même. Et on était tout le temps dans l'émotion, en disant ça c'est trop beau quoi. Comment un livre peut tout d'un coup changer sa vie? Comment ces rencontres, qui sont des rencontres, livre, la littérature, ce sont des rencontres, ces univers qu'on rencontre qui nous font basculer, qui nous font quelquefois comprendre de qui on est. Et puis aussi, quelquefois, ils nous font comprendre qu'on n'est pas seul, qu'il y en a d'autres qui vivent des choses comme ça. Et ça, c'est d'une richesse pour un adolescent qui se construit.
Surtout un adolescent qui est mal avec son corps, parce que le livre parle à son corps aussi, parle à ses sentiments, à son intelligence, à son corps, et le livre, il est total.
Oui. C'est bien, les livres. Il faut lire.
Alors, est-ce qu'on a 3 minutes? Est-ce que vous avez encore
des idées
plus tard, bientôt, que vous aimeriez ou que vous êtes en cours de...
Là, on a plein de magnifiques choses qui vont sortir à l'automne, mais... Aller dans les librairies, surtout. C'est important. Mon message, c'est ça aussi. C'est les libraires. On a besoin d'eux, des libraires indépendants qui font leur choix, qui choisissent vraiment
les livres qu'ils ont envie de partager et de vendre. Dans ce métier, partager et vendre, c'est la même chose. Plus il est lu, mieux ça vaut. Et je pense qu'il ne faut pas oublier, plutôt que d'aller acheter sur Amazon, acheter chez votre libraire.
Ah, oui.
Le libraire, il est là, il peut vous conseiller, il peut vous dire... Il peut vous donner même de mauvaises idées, mais vous pouvez discuter avec lui en disant « je ne suis pas d'accord ». Il y a vraiment une discussion, ce n'est pas le robot Amazon qui va...
Alors, nous avons une librairie qui est la librairie Publico, j'ai oublié d'en parler.
C'est important.
145 rue Amelot, Paris 11e, il y a trois métros, Filles du Calvaire, République ou Oberkampf. Et elle est ouverte tous les jours sauf le lundi et c'est à partir de 13h. Et le samedi, c'est un petit peu plus tôt.
On va aller les voir pour voir s'ils ont la collection L'Ardeur.
Alors là, j'en sais rien du tout. Il y a aussi une autre librairie anarchiste qui est Quilombo, et où ils ont un plus grand, une plus grande table de littérature, plus variée. Publico, c'est plus politique. Il n'y a pas la place.
Mais vous savez, politique, quand vous dites politique...
Oui, c'est, et avec des essais, des...
Mais quand vous dites politique, il n'y a pas plus politique qu'un livre.
Mais bien sûr.
Un éditeur fait une politique. C'est-à-dire que dans nos messages, dans ce qu'on veut faire passer, dans ce qu'on veut faire lire, on a des idées. Et heureusement, c'est ça un vrai livre. Sinon, c'est...
Et il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, mais je ne sais plus à propos de quoi on parlait, quelqu'un que je ne connaissais pas. Dans un groupe, je le rencontre et je dis, bah, ça, je l'ai vu à la librairie anarchiste. Où ça? Bah à Paris. Ah bon? Il y a des librairies anarchistes à Paris? Je dis oui. Il y a Publico, il y a Quilombo, il y en a plein d'autres. Il y en a une à Montreuil. Enfin, il y en a plusieurs à Montreuil. Ah bon, ça existe, les librairies anarchistes? Et je pense qu'il va chercher un peu. Bon, c'est une conclusion un peu pourrie. Merci Thierry Magnier.
Ben c'est moi qui vous remercie. Puis je remercie notre technicien et lecteur à côté de vous qui m'a posé de belles questions.
Ben, merci. Là, nous allons diffuser le... L'indicatif Anne Sylvestre, Laissez les enfants. Je pense que ce titre vous convient bien.
Absolument, oui. Oui, oui.
Allez, au revoir Thierry Magnier.
Merci beaucoup de votre accueil. Au revoir.
Laissez les enfants pleurer, ne tarissez pas leurs larmes. Elle lave et le désarme ce qui les fait chavirer. Laissez les enfants verser ces ruisseaux qui les apaisent et s'en vont noyer les braises de leurs chagrins insensés. Laissez-les. Empêcher que l'on réprime cette rosée légitime. Ils ont des fleurs arrosées. Laissez les enfants pleurer. Avant qu'on les abîme. Laissez les enfants rêver, ne les cassez pas d'avance. Donnez-leur au moins la chance d'apprendre un jour à voler. Laissez les enfants choisir des chemins qui vous dépassent. N'effacez jamais leurs traces, vous les verrez revenir. Laissez-les. Ne souffrez pas qu'on dédaigne la lumière qui les baigne. Ils ont des richesses à donner. Laissez les enfants rêver. Avant qu'on les éteigne. Laissez les enfants grandir, ne renforcez pas les cages, ne craignez pas les orages, ni les torrents à franchir. Laissez les enfants gagner le droit d'étendre leurs ailes dans la lumière nouvelle d'une vie à inventer. Laissez-les. Ils vont s'envoler ensemble, un même ciel les rassemble. Ils ont des sommets à gravir. Laissez les enfants grandir avant qu'ils nous ressemblent.
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, oui, sur le 89.4 FM et www.radio-libertaire.net.